Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartré. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Interprétation du rêve, publié fin 1889 et daté 1900, est un essai théorique de Sigmund Freud et un texte fondateur de la psychanalyse. Freud y propose une thèse qui modifie durablement la compréhension moderne du rêve. Le rêve possède une logique psychique et constitue souvent un accomplissement de souhait. Inconscient. Le livre ne se présente pas comme une clé des songes ni comme un catalogue de symboles fixes. Il expose plutôt une méthode interprétative fondée sur les associations du rêveur, la distinction entre contenu manifeste et pensée latente, et la description du travail du rêve. Sa portée dépasse donc la question du sommeil. Freud utilise le rêve comme accès privilégié au conflit, au désir, aux censures et aux formations de compromis de la vie psychique. Texte dense, parfois difficile, il demeure central pour comprendre la naissance de la théorie freudienne, mais aussi ses ambitions, ses limites et son influence sur la pensée du XXe siècle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le rêve comme accomplissement de souhaits inconscients. La proposition centrale du livre est que le rêve ne doit pas être traité comme une suite absurde de sensations nocturnes, mais comme une formation psychique ayant une fonction. Freud soutient que le rêve accomplit un souhait, souvent sous une forme masquée, parce que ce souhait rencontre une résistance morale, affective ou sociale. Cette idée ne signifie pas que chaque rêve exprime simplement un désir agréable et transparent. Un rêve angoissant peut, dans cette perspective, résulter de la déformation de pensées latentes conflictuelles, de sorte que le souhait sous-jacent ne se reconnaît pas directement dans la scène rêvée. Le raisonnement de Freud repose sur une continuité entre veille et sommeil. Les préoccupations, souvenirs et tensions du jour ne disparaissent pas, mais se recomposent pendant la nuit. Le rêve protège aussi le sommeil en donnant une satisfaction psychique indirecte à des excitations internes. Cette thèse distingue le livre des traditions symboliques plus anciennes, car elle cherche la signification dans le rapport entre désir, censure et histoire personnelle du rêveur, plutôt que dans une correspondance universelle entre image et signification. Deuxièmement, contenu manifeste et pensée latente comme méthode de lecture. Freud établit une distinction devenue classique entre le contenu manifeste, soit le rêve tel que le rêveur le raconte, et les pensées latentes, soit le réseau de souvenirs, désirs, associations et conflits qui ont contribué à sa formation. Cette distinction explique pourquoi un rêve peut paraître incohérent tout en étant psychiquement motivé. Le travail interprétatif ne consiste donc pas à remplacer une image par une signification fixe, mais à décomposer le récit du rêve en éléments et à suivre les associations produites par le rêveur. Cette méthode donne une place décisive au contexte individuel. Une même image peut renvoyer à des chaînes de sens différentes selon la biographie, les préoccupations et les affects de la personne. Freud refuse ainsi le modèle du dictionnaire des rêves, qui promet une traduction rapide et générale. Sa méthode demande du temps, une attention aux détails et une tolérance aux détours apparemment secondaires. Elle pose aussi une difficulté: le sens latent ne se livre pas comme une preuve expérimentale simple, mais comme une reconstruction interprétative fondée sur les connexions verbales, affectives et mémorielles. Troisièmement, le travail du rêve transforme les idées en scènes étranges. Un apport majeur du livre réside dans la notion de travail du rêve, par laquelle Freud désigne les opérations qui transforment des pensées latentes en contenu manifeste. Parmi ces opérations figure la condensation, où plusieurs pensées ou personnes se réunissent dans une seule image, et le déplacement, où une charge affective passe vers un détail secondaire pour détourner la censure. Freud décrit aussi la figuration, qui convertit des pensées abstraites en scènes visuelles, ainsi qu'une réorganisation secondaire qui donne au rêve une apparence plus cohérente après coup. Ces mécanismes permettent de comprendre pourquoi le rêve paraît souvent bizarre. Son étrange tête ne vient pas d'une absence de logique, mais d'une logique de transformation. Le rêve ne parle pas comme un raisonnement diurne, il compose, déplace et met en image. Cette analyse rapproche le rêve des symptômes névrotiques, des lapsus et autres formations de compromis étudiées par Freud. Le livre avance ainsi une hypothèse générale sur le psychisme: ce qui semble accidentel ou absurde peut être le produit de forces psychiques en conflit, agissant sous contrainte de censure. Quatrièmement, auto-analyse de Freud et rêve de Irma comme laboratoire théorique. Le livre accorde une place importante au propre rêve de Freud, ce qui lui donne une dimension particulière dans l'histoire de la pensée psychologique. Le rêve dit de Irma occupe une fonction exemplaire. Freud y montre comment un rêve apparemment composite peut être relié à des préoccupations professionnelles, des souvenirs récents, des affects de culpabilité et des souhaits de justification personnelle. Cette utilisation de son expérience personnelle ne relève pas seulement de anecdotes. Elle sert à défendre la possibilité d'analyser les productions psychiques ordinaires et non seulement les symptômes pathologiques. Freud étend ainsi le champ de la psychanalyse. Le rêve devient un phénomène normal qui révèle des procédés également visibles dans la névrose. Cette stratégie donne au livre une force et une fragilité. elle rend la théorie concrète car elle suit des associations détaillées. Mais elle expose aussi la méthode à des questions sur la subjectivité de l'interprète et sur la vérifiabilité des conclusions. Le texte est donc autant une construction théorique qu'un document de auto-examen où Freud transforme sa propre vie psychique en matériau scientifique, en dernier lieu. Un texte fondateur mais exigeant, entre influence et contestation, interprétation du rêve, est devenu un texte incontournable parce qu'il réunit une théorie du rêve. Une méthode clinique et une conception nouvelle de inconscient psychique. Son influence dépasse la psychanalyse stricte littérature, philosophie. Histoire culturelle et critique de la subjectivité ont souvent repris ces notions de désir caché, de censure et de signification indirecte. Toutefois, la lecture présente des difficultés réelles. Le style est long, argumentatif, parfois répétitif, et suppose un intérêt pour les débats psychologiques et médicaux de la fin du 19e siècle. Des lecteurs qui cherchent un guide pratique de symboles oniriques peuvent être déçus, car Freud ne propose pas une lecture immédiate des images, certaines hypothèses, notamment liées à la sexualité, au développement psychique ou à la portée universelle du modèle freudien, ont aussi été fortement discutées par la psychologie contemporaine. La valeur actuelle du livre tient donc moins à une acceptation complète de toutes ces thèses que à son rôle de matrice. Il montre comment Freud a construit une méthode pour lire les phénomènes psychiques comme des formations de sens. En conclusion, ce livre convient aux lecteurs intéressés par la psychanalyse, histoire de la psychologie, philosophie d'esprit. Critique littéraire ou étude des formes symboliques. Il demande une lecture patiente, car Freud ne livre pas une méthode simplifiée pour décoder les rêves, mais une architecture théorique complète sur le rapport entre désir, censure, mémoire et inconscient. Son bénéfice principal est intellectuel, il apprend à considérer les productions mentales ordinaires comme des phénomènes structurés, non comme de simples accidents. Il peut aussi aider à comprendre les notions freudiennes majeures qui irriguent ensuite ses travaux, notamment association, formation de compromis, sexualité psychique et conflit interne. Par rapport aux ouvrages populaires sur les rêves, il se distingue par son refus des significations fixes et par son attention au parcours associatif du rêveur. Par rapport au manuel de psychologie plus récent, il se distingue par son ambition fondatrice et par son importance historique, même lorsque certaines conclusions sont discutées. Sa valeur la plus durable réside dans le déplacement de perspective, le rêve devient un objet théorique central pour penser les désirs cachés, les défenses psychiques et les continuités entre vie nocturne et vie éveillée. Si vous souhaitez soutenir Sigmund Freud, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.